Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Alors,
je suis contente de vous entendre.
Super. Est-ce que vous avez déjà entendu des artistes comme ça qui vous appelaient
Oui, pendant le confinement, j'avais suivi un ou deux artistes, je crois, dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, là maintenant. Mais j'avais beaucoup, beaucoup apprécié.
Bon, bah super. Alors, est-ce que vous êtes bien installée, confortablement?
Oui.
Très bien.
Il n'y
a,
oui.
y a rien qui va vous polluer le regard ou je ne sais pas, pour vous empêcher de partir en voyage imaginaire avec moi?
Non, rien du
super.
Tout.
Super. Alors, on va pouvoir y aller. J'ai
D'accord.
commencé par vous raconter une histoire.
Oui.
Au milieu d'un champ, tout près d'un village, se dressait un arbre majestueux. Été comme hiver, il était couvert de fruits dorés. Alors, au village, on aurait pu avoir envie de grimper aux branches et de croquer dans les fruits qui semblaient si appétissants. Mais pourtant, personne ne le faisait. Non, parce que autour de cet arbre était une croyance. Depuis toujours, les gens du village avaient entendu la même chose. L'une des deux branches qui séparait le tronc de l'arbre, en hauteur, portait des fruits empoisonnés. Et personne ne savait quelle branche portait ces fruits. Alors l'autre branche, certes, portait des fruits qui donnaient la vie, mais personne n'osait goûter, bien sûr. Et une année, un hiver glacé, et puis a succédé un printemps avec très très peu de pluie, et un été complètement aride. Puis est arrivé l'automne, pas de pluie non plus. Et là, cet hiver qui est arrivé à la suite de tout ça était un hiver plein de bourrasques, plein de gel. Toute cette année-là avait fait que toutes les plantes étaient sèches. Le champ de blé, au milieu duquel l'arbre trônait, ne donnait plus rien depuis déjà des mois et des mois. La famine s'abattait sur le village et les villages alentours. Seul, l'arbre trônait intact, avec toujours ses fruits dorés et appétissants. Alors, à un moment, les villageois se sont dit « Il va falloir choisir, prendre le risque de goûter, parce que si on ne mange pas, de toute manière, nous allons mourir de faim. Donc, on pourrait goûter, tant qu'à mourir, autant mourir empoisonné. » Bah oui, tout le monde était bien d'accord, seulement personne n'osait aller goûter. Et un jour, un homme s'est approché de l'arbre. Lui, il avait son fils qui était très malade. S'il ne mangeait pas, de toute manière, il mourrait. L'homme lui avait dit le matin en partant, « Ne t'inquiète pas, mon fils. Tout à l'heure, peut-être que je reviendrai. Et si je ne reviendrai pas, au moins toi, tu vivras. Et tu sauras que... Tu sauras pourquoi. Tu seras fier de moi. Ne t'inquiète pas. » Alors, toute la famille avait... essayer de le convaincre de ne pas le faire, bien sûr, mais il y avait été l'homme. Et là, fièrement, il est arrivé sous la branche gauche de l'arbre. Il a tendu le bras en l'air, il a attrapé un fruit, il a croqué dedans. Et il a senti le sirop du sucre lui couler dans la gorge, c'était délicieux. Il a mâché la chair du fruit, c'était onctueux, savoureux. Il a avalé. Rien ne se passait. Alors il a continué à croquer dans le fruit, une deuxième bouchée, une troisième. Il a mangé le fruit tout entier et il était toujours debout. Alors les villageois qui étaient là en train de l'observer se sont dit eh bien voilà, on sait maintenant. C'est la branche gauche qui porte des fruits qui donnent la vie. Allons-y, goûtons nous aussi. Et ils sont grimpés dans l'arbre pour certains, ou d'autres attrapés depuis le sol. Ils mangeaient les fruits, ils se régalaient, et comme ça, jusqu'à la fin du jour, il n'y avait plus de fruits sur la branche gauche de l'arbre. Et tout le monde est parti se coucher, ravi, heureux. Le lendemain matin, la branche gauche de l'arbre était à nouveau couverte de fruits savoureux. Waouh ! Tout le monde était ravi. On venait maintenant, jour après jour, il se passait la même chose. Au bout d'une semaine, on avait fini par installer des tables, là, tout autour de l'arbre, et c'était la fête en permanence. Et puis, à un moment, quelqu'un a commencé à dire, « Quand même, cette branche de droite, là, elle nous a pourri la vie pendant des années. On n'a pas osé goûter les fruits de l'arbre. On a failli tous mourir de famine à cause d'elle. » Ben oui, c'est vrai. D'autres ont répondu, et là, si on se trompait, si un enfant se trompait, il pourrait encore mourir empoisonné. Coupons-la. Oui, coupons cette branche. La décision était prise. Un groupe de villageois est allé chercher une scie et ils ont coupé, ils ont scié avec un sourire vengeur cette branche droite de l'arbre. Et la branche s'est écrasée au sol, jetant ses fruits empoisonnés. Et au soir, tout le monde est allé se coucher. Seulement le lendemain matin, quand les villageois sont revenus près de l'arbre, la branche de gauche, elle aussi était tombée. Les fruits dorés de la veille avaient pourri sur place. Le tronc était tout racorni, l'arbre était mort. Voilà, Michel, c'était la première histoire.
Oui, je suis encore dans l'histoire. Et je me dis que chaque branche sert à quelque chose. Oui. Et que l'arbre est à préserver au plus. Voilà.
C'est ça. Oui, oui, elle raconte ça directement, cette histoire. Puis même quand on y repense, elle a plein de sens. Oui.
C'est très, très beau. C'est touchant. C'est très touchant.
Et ben, tant mieux, si vous avez été touchée, c'est ça l'idée. Hein.
Oui.
Et ben, pour continuer, alors vous savez bien que cet appel, cette conversation a lieu dans le cadre de la nuit de la lecture.
Oui.
Avec la thématique cette année de la peur.
Oui, j'ai entendu ça.
Ah voilà, c'est ça. Et alors moi, honnêtement, dans mon répertoire, il n'y a pas énormément d'histoires qui abordent spécifiquement la peur. Donc j'avais celle-ci, là, celle de l'arbre qui en parle quand même. Et du coup, j'ai trouvé un texte dans une revue littéraire qui s'appelle Bouclard. C'est une revue littéraire, c'est une revue qui est éditée par un éditeur nantais qui s'appelle les Bouclard Éditions.
Oui.
Et je vais vous en lire un extrait. C'est un article qui est un petit peu long, donc je ne vais pas le lire entièrement. Ce texte a été écrit par Philippe Baudouin. Le titre, La bibliothèque des hantises. Le sous-titre, dans cet article, on va vous bibloter un cabinet de curiosités métapsychiques, des archives secrètes, des moulages ectoplasmiques, des esprits malins, un télépathe enquêteur, des couverts tordus par la pensée. Ah, je commence. Vue depuis la rue, seule une discrète plaque rouillée en signale l'existence. L'Institut Métapsychique International reçoit uniquement sur rendez-vous. L'accès aux archives de la parapsychologie française se mérite et force est de constater que le temps n'arrange rien à l'affaire. L'effet que produit cet endroit sur moi ne varie jamais. À l'appréhension première, succède toujours l'attente fébrile de l'autorisation à pénétrer à nouveau en ces lieux. Et cette attente, je la ressens depuis la bouche de métro jusqu'à l'imposante façade de la rue de l'Aqueduc. Me voici dans l'antichambre. L'antichambre de ceux que l'on nomme les métapsychistes rappelle par certains aspects le narthex des premières basiliques, ce vestibule situé à l'entrée de l'édifice sacré que l'on destinait à l'origine aux possédés et aux hérétiques pour les tenir ainsi à l'écart des fidèles. Une fois le parcours achevé, j'accède enfin à la salle des archives. L'épaisse couche de poussière qui recouvre les vieux manuscrits de l'Institut donne l'image d'une chambre des merveilles que des décennies de chercheurs auraient miraculeusement sauvé d'un siècle oublié. D'improbables étiquettes ornent les étagères. Télépathie, possession, maison hantée, hypnose, OVNI Poltergeist. Alors j'ai regardé, Michel, j'ai regardé ce que voulait dire Poltergeist, parce que pour moi c'est juste le titre d'un film. Poltergeist, c'est un nom qui vient de l'allemand polter, qui veut dire faire du bruit, et geist, qui veut dire esprit. Donc c'est un autre mot pour dire esprit frappeur. Mais plus encore que cet invraisemblable agencement, c'est la sobriété du lieu qui frappe surtout le visiteur. Seule une voix, celle d'une femme, vient troubler la sérénité des lieux. C'est Jocelyne, la secrétaire, en charge notamment de la hotline. C'est la seule salariée de l'Institut. Chaque jour, elle reçoit plusieurs appels de personnes en détresse qui, souvent choquées, cherchent des réponses aux phénomènes bizarres qu'elles ont vécus. Avec ses lunettes et son air désabusé, Jocelyne me fait penser à Janine Melnitz, la standardiste du film SOS Fantôme. Son quotidien, c'est un peu la banalité du paranormal et son lot d'histoires extraordinaires avec laquelle elle doit composer. Pour relayer les demandes de renseignements auprès de la cellule d'écoute psychologique de l'Institut, Jocelyne établit un premier diagnostic et s'efforce, pour chaque cas, de cocher les petites cases. Télépathie, voyance, prémonition ou bien contact avec les disparus, que prévoit à cet effet son formulaire de contact qu'elle doit remplir. Mais la plupart du temps, les coups de fil qu'elle reçoit n'ont rien à voir avec le paranormal. Quelques minutes de discussion suffisent généralement à Jocelyne pour se rendre compte de la véritable raison de l'appel. Très souvent, les gens qui la sollicitent souffrent de troubles psychiques ou bien se trouvent sous l'emprise de psychotropes. Malgré cela, quelques-uns de ces témoignages l'incitent encore à croire en la possibilité objective de ces phénomènes. La bibliothèque et les récits dont elle regorge en sont d'ailleurs la preuve matérielle. Comme elle aime à le rappeler, Jocelyne est l'héritière d'une longue lignée de secrétaires dont le rôle de protectrice a toujours été déterminant quant à la préservation des archives. Me voici donc, une fois encore, affairée à dépouiller les innombrables cartons entassés dans les armoires de l'Institut, espérant à chaque occasion faire de nouvelles découvertes. L'Institut célèbre aujourd'hui ses 100 ans d'existence. Les trésors dont recèle sa bibliothèque portent encore les traces des luttes et des combats qui furent nécessaires à sa reconnaissance officielle. Le 23 avril 1919, le décret signé ce jour-là par Raymond Poincaré, alors président de la République, accorda à la communauté des métapsychistes le statut tant convoité de fondation reconnue d'utilité publique. Près de 40 ans après la création de la Society for Psychical Research à Londres, les efforts que les chercheurs français avaient produits depuis la fin du XIXe siècle pour tenter d'arracher l'hypnose ainsi que d'autres phénomènes controversés au champ des superstitions étaient récompensés. Ils pouvaient enfin prétendre à la scientificité, au même titre que les travaux menés dans le domaine de la physique, de la chimie ou de la biologie. Cette recherche de légitimité scientifique s'est toujours accompagnée chez eux d'une certaine aversion pour les différentes formes de croyances, comme le souligne le slogan qui apparaît au-dessus de la porte de l'Institut. Le paranormal, nous n'y croyons pas, nous l'étudions. Je continue, Michel. C'est étonnant comme endroit. Hein.
Oui, complètement.
Alors, je vous avoue que je n'ai pas vérifié la véracité des propos, mais j'ai bien l'impression que cet établissement existe, d'autant que dans la revue, il y a des images. C'est en vous lisant, je me dis quand même, j'aurais dû vérifier, mais j'ai bien l'impression que ça existe, vraiment. Je continue le voyage.
Oui.
Donc, dans cet Institut Métapsychique International. Alors... Aux côtés des vieux grimoires, des boîtes et des écrins en bois attirent mon attention. Là, on va rentrer dans la peur, Michel. Attention, attention.
D'accord.
Je les reconnais. Ils renferment l'impressionnante collection de plaques stéréoscopiques consacrées au phénomène médiumnique. Ce sont de véritables machines à voyager dans le temps. on y voit les médiums se succéder devant un tout Paris en mal de sensations fortes. Par exemple, les transes de l'Autrichien Rudi Schneider, 1908-1957, dont les points culminants de crise s'accompagnaient de soubresauts incontrôlables et parfois même d'éjaculations. Les ectoplasmes sortant du nez et du vagin de Marthe Béraud, 1886-1969, ou bien encore ces animaux extraordinaires que faisait apparaître le Polonais Jean Guzik, 1876-1928, durant ses séances.
D'accord. Donc.
Alors.
C'est un voyage.
Gustave Gellet, qui était donc un de ces scientifiques, un des fondateurs, je crois bien, de cet institut, et qui était l'auteur d'un livre nommé « L'ectoplasmie et la clairvoyance », fut sans doute l'un des plus grands spécialistes des matérialisations ectoplasmiques. Alors là, du coup, moi, ectoplasme, ça ne me disait pas grand-chose d'autre que les expressions du capitaine Haddock dans Tintin. Oui. Donc j'ai été regarder la définition dans le dictionnaire. Et voici ce que le Larousse en dit. Ectoplasme, substance mystérieuse qui se dégagerait du corps de certains médiums pendant la transe et qui, à quelque distance, se matérialiserait pour prendre forme de membres, de visages, de fantômes humains, animaux ou encore d'objets divers.
Mon Dieu.
Donc revenons donc à l'article. De couleur blanchâtre, les ectoplasmes se présentaient sous des apparences à la fois légères et consistantes, filandreuses, semblables à une pièce d'étoffe qu'on aurait déchiquetée. D'après les observations du médecin allemand Albert von Streck-Notzing, leur texture gluante et laiteuse pouvait donner naissance à diverses figures allant d'une simple nuée vaporeuse à un visage humain. Fasciné par ces étranges matérialisations, Gustave Gellet organisa au siège de l'Institut une série d'expériences en compagnie du médium polonais Franek Kluski, réputé pour être l'un des plus grands spécialistes en la matière. Les contrôles les plus stricts furent mis en place pour l'occasion. L'accès à la salle avait été verrouillé. Une lampe rouge était allumée afin de détecter tout mouvement suspect. Et les mains du médium, donc Franek Kluski, était tenu en permanence par un contrôleur de chaque côté pour éviter toute manipulation frauduleuse. C'est toutefois dans ces conditions d'observation strictes et rigoureuses que des formes lumineuses à l'apparence humaine furent observées. Durant l'une des séances, Gellet eut l'idée de placer au centre de la pièce un baquet contenant une épaisse couche de paraffine flottant à la surface d'une eau chauffée électriquement, puis ordonna aux entités, aux formes lumineuses donc, de plonger leurs mains dans la cire brûlante. Il en a écrit un rapport, voici ce qu'il dit dans son rapport. Elles se promenaient lentement devant nos yeux, se plongeaient les mains dans le baquet, barbotaient un instant et ressortaient les mains toujours lumineuses, puis finalement venaient déposer le moule encore chaud contre l'une de mes mains. Ensuite, Gellet raconte qu'il a coulé du plâtre dans les fines poches de paraffine obtenues. Et il a ainsi obtenu de curieux moulages. Ces moulages sont conservés depuis dans un coffre-fort. Ils font la fierté de l'Institut. De petite taille, semblables à celles d'un enfant, ses mains présentent étonnamment l'usure et les traits de celles d'un adulte. Ces objets furent confiés au directeur du service de l'identité judiciaire à la préfecture de police de Paris pour un examen anthropométrique. Les empreintes relevées sur les plâtres furent comparées à celles de Kluski et de Gellet sans aucune identification qui puisse établir que ce furent celles de Kluski et Gellet. La façon dont se sont formés ces moulages reste à ce jour inexpliqué.
Voilà. Donc.
Ben voilà, c'était le deuxième texte que je voulais vous lire. Donc on est On est entre de la fiction et de la réalité, on ne sait pas trop, voilà.
Oui. Mais oui. C'est toujours très assez extraordinaire parce qu'on ne peut rien expliquer dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'il y a des phénomènes paranormaux qui sont. Voilà.
Me semble-t-il.
Oui, oui,
Ouais,
oui.
c'est ça. Alors moi, voilà, c'est vrai, je trouve que ça a un côté fascinant et en même temps,
Oui,
voilà, je
oui.
m'y
Et
attarde
en
pas
même temps.
trop, mais c'est toujours
Oui.
étonnant quand même. Ouais.
Oui. On aurait tendance à passer à autre chose rapidement parce que ça laisse des traces quand même un petit peu, effectivement, d'inquiétude, de peur, peut-être, oui,
C'est ça, c'est ça.
de crainte.
Mais là, du coup, l'article, donc je vous en ai lu uniquement des extraits, il y a beaucoup de recul, en fait, sur tout ce qui est dit. Et cet institut, donc, serait un institut qui se présente comme plus une analyse scientifique et qui n'est pas, voilà, pas forcément
Oui,
dans des
oui,
croyances.
oui.
Après, il y a quand même ces objets, bon, voilà.
Oui,
Mais
oui, oui.
voilà.
Oui, merci, parce que c'est très, très, très beau. Ça sort au plus de l'ordinaire des histoires que l'on connaît. Donc, oui, c'est sympa, c'est bien, c'est très bien.
Alors, est-ce que vous écoutez l'émission ce soir, Michel?
Oui, bien
Oui,
sûr.
très bien, ben voilà. Et alors,
Oui.
bonne suite d'émissions à vous.
Merci, merci beaucoup à vous, en tous les cas.
Et puis à
J'ai
une...
passé un très bon moment.
Super, moi aussi. Bonne soirée.
Merci, bonsoir.